Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 octobre et c'est Marine, micro de Cinérama. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Une nouvelle édition de Cinérama sans Vincent qui a réussi à s'échapper du Poitou mais qui a ensuite fait enlever par des espions moscovites. Donc, en l'honneur de la Russie, nous allons aujourd'hui parler de la vie d'Adèle, entre autres, que je vais chroniquer. Oui, parce qu'ils aiment beaucoup les films gays là-bas.
Ah bon ?
Tu savais pas ?
Non, je savais pas.
Parce que ça a été interdit en fait là-bas. Et toi Manu, de quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien, donc de deux films radicalement opposés d'ailleurs, Prisoner du Québécois Denis Villeneuve et C'est la fin, le film de Seth Rogen et Evan Goldberg.
Avec James Franco, beaucoup de James Franco, aujourd'hui, puisque je vous parlerai également de As I Lay Dying, le dernier film de écrit et avec James Franco. Et Vincent sera quand même un petit peu avec nous puisqu'il nous a monté l'interview de Albert Dupontel réalisée il y a un mois. C'est Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
Alors Denis Villeneuve, auteur du très remarqué Incendie, signe donc avec Prisoners son premier film américain, quoique apparemment Ennemi, celui qui va sortir dans quelques mois, a été réalisé avant apparemment. Enfin bon, comment un cinéaste aussi exigeant et assez confidentiel allait s'emparer d'un matériau qui suinte quand même quand on voit la bande-annonce, le bon gros thriller hollywoodien plombant et quand même glauque. Le film est d'ailleurs vendu à tort, à mon avis, comme un ersatz de Seven ou du Silence des Agneaux. Donc il est toujours à craindre que les talents venus d'ailleurs finissent par perdre toute crédibilité sur le sol américain, devenant des yes-men au service de produits bien emballés et sans saveur. Mais ce n'est pas le cas avec Denis Villeneuve, qui possède quand même une forte personnalité et un talent inouï de conteur. Dans la grande tradition des films noirs, Prisoners a pour première qualité de captiver de la première à la dernière image, d'embarquer le spectateur dans un cauchemar éveillé d'une noirceur affolante, mais qui évite de sombrer dans le sordide ou le nihilisme de pacotille. Donc la force du récit ne tient pas dans son sujet, plutôt casse-gueule au départ. Enfin, ça se passe dans la banlieue de Boston, deux fillettes disparaissent, l'inspecteur Loki mène l'enquête et privilégie la thèse du kidnapping. Le suspect numéro un, demeuré léger, enfin, un mec un peu simplet, et il est arrêté, mais aussitôt relâché, faute de preuves concrètes. Et le père d'une des deux fillettes, traumatisé par les événements, il est bien décidé à retrouver le coupable jusqu'à commettre l'irréparable.
Joyeux Thanksgiving.
Bonjour. Joyeux Thanksgiving.
Pour l'amour du ciel, quelle est rentre donc.
Quoi?
Il chante vraiment sous la douche.
C'est pas vrai,
si,
ça.
C'est vrai.
Maman, je peux aller chez nous avec Joy?
Tu mets ton bonnet. Tu viens juste d'avoir un rhume.
Elles sont où, vos sœurs?
Je les trouve nulle part.
Anna? Joy?
J'ai fouillé toute la maison, elles sont pas là.
Papa, il y avait un camping-car et elles jouaient à côté. Et il y avait quelqu'un dedans.
Je les ai pas trouvées!
Je suis l'inspecteur Loki.
Vous avez des enfants, inspecteur?
Je vais retrouver vos filles.
Les mains en l'air, tout de suite! Allez!
J'ai ces gamines quelque part, Alex. Non. Je sais que t'as caché ces gamines.
Il reste en garde à vue jusqu'à ce qu'on retrouve ma fille.
La garde à vue de 48 heures se termine demain, sauf si on l'inculpe.
Bien, inculpez-le de quelque chose.
Ce garçon n'a jamais causé le moindre problème de toute sa vie.
Aucune trace dans ce truc. J'ai fouillé la forêt près de l'aire de repos.
La police a dit qu'elle le relâchait aujourd'hui.
Qu'est-ce que t'en as fait? Dis-le-moi.
Ah! Non!
Ça fait 6 jours. Et chaque matin, elle doit se demander pourquoi je suis pas là.
Tu nous avais dit que tu pouvais nous protéger de tout.
Pourquoi vous ne cherchez pas ma fille?
Alex.
Alors, dès les premiers plans oppressants, la tension est palpable. En fait, une angoisse lancinante contamine un récit qui est complexe, une réflexion ambiguë sur le mal qui ne cesse de se confondre avec l'apparence du bien. Dans Prisoners, Villeneuve réactive intelligemment la thématique de la victime qui devient à son tour un bourreau. Il ne juge personne, mais observe avec beaucoup d'empathie des êtres pleins de larmes et de souffrances qui, au nom de la justice, vont commettre l'irréparable, jusque dans la découverte de l'identité du véritable coupable. On est loin, finalement, du thriller ludique à la Seven et de tout un pan du cinéma comme ça hollywoodien auquel le film semble pourtant appartenir dans un premier temps, mais en fait d'ailleurs renforcé par une esthétique un peu grisâtre, manifestation d'état dépressif des personnages. Denis Villeneuve rentre d'entrée dans le vif du sujet avec une magistrale aisance et il s'en écartera jamais. Il parvient à capter l'atmosphère morose d'une banlieue avec ses maisons ternes, le temps pluvieux, ses habitants taciturnes. Il ne filme ni, d'ailleurs, ce n'est pas la bourgeoisie pavillonnaire, ni les pauvres rednecks, mais une population un peu intermédiaire, une classe moyenne, très fragilisée par le poids de la vie. Le cinéaste saisit des instants d'une cruelle authenticité. Prisonneur nous immerge donc dans la psyché des personnages ambigus, rongés tour à tour par la vengeance, la culpabilité, au point de nous faire oublier l'incroyable mécanique d'un scénario qui est quand même retors et brillant. Parce qu'une fois, une fois n'est pas coutume, là j'étais assez surpris, les retournements de situation sont véritablement imprévisibles et en même temps secondaires. C'est-à-dire qu'on s'y attend absolument pas. On est plus dans un film où c'est les personnages qui dominent et puis on oublie que vraiment le film est très 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 bien écrit en fait. On pense à un des plus beaux films d'Eastwood d'ailleurs, Mystic River, pour ce côté un peu dépressif, crépusculaire, cette vision un peu banale de l'enfer sur Terre. Donc il est rare de sortir d'une salle de ciné autant troublée, bouleversée par ce qu'on vient de visionner. Hélas, parce qu'il y a toujours un bémol dans les films, Denis Villeneuve rate un peu in extremis le chef-d'œuvre avec une fausse note. D'ailleurs, c'est le cas de le dire pour ceux qui l'ont vu. Une fausse note en fin de parcours. Une faute de goût, à mon avis, pardonnable, tant l'ensemble révèle la maturité d'un cinéaste puissant et permet surtout à trois comédiens de révéler le meilleur d'eux-mêmes. Jack Gyllenhaal, qui est tout en rage contenue, qui est génial. Hugh Jackman, qui est extraordinaire en père de famille, alors que je trouvais que jusque-là, c'était un comédien assez transparent. Et enfin, Paul Dano, très inquiétant en faible d'esprit. Voilà, la mise en scène, elle parvient vraiment à réinventer aussi l'art de la litote, très voyante en apparence, avec ses impressionnantes, même tout en long travelling sinueux et très lent. Elle esquive par contre brillamment tout ce qui plombe habituellement les polars modernes, à savoir les longs interrogatoires et puis les recherches d'indices diverses par la police scientifique, entre autres. C'est-à-dire que tout ça est évacué. Et pour se concentrer davantage sur les tourments des personnages qui ne cessent pas de hanter après la vision du film. Enfin, moi, je trouve que c'est un des films les plus importants qui est sorti cette année. Et j'ai très envie de le revoir.
Très bien. Et bien justement, si vous voulez le voir ou le revoir, donc c'est uniquement au Gaumont et Gaumont Multiplex.
Curieux d'ailleurs qu'il ne le passe pas au Diagonal. Oui. C'est un mélange entre le cinéma hollywoodien et le cinéma d'auteur. Hein. Enfin,
d'autant qu'ils avaient passé son premier film, Incendie.
C'est pas son premier film.
Il en enfin, fait... son précédent. Précédent pardon,
parce qu'il avait fait aussi un film qui s'appelait 32 août sur la Terre. Avec la musique, il me semble, de Pascal Comelade. Enfin bon, bref.
Très bien. Donc, Prisoners, c'est à voir au Gaumont et Gaumont Multiplex. Gaumont, si vous voulez le voir, en version originale. Et tout de suite, on poursuit avec La vie d'Adèle, c'est Cinérama.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Alors, on ne sait pas vraiment par quoi commencer lorsqu'on évoque la vie d'Adèle, ce qui nous a plu, transporté, subjugué, ce que l'on a détesté, ou encore notre avis sur les différentes polémiques en orbite autour de cette Palme d'Or 2013. L'histoire, pour la rappeler brièvement, est celle d'une lycéenne, Adèle donc, qui vit dans la banlieue de Lille une adolescence classique. Elle sent bien au fond que quelque chose lui manque, jusqu'au jour où elle croise une jeune fille aux cheveux bleus, Emma, et en tombe amoureuse. Voici ainsi raconté en 3 heures de récit initiatique la naissance d'un amour, sa construction et sa perte en même temps que l'éveil d'une identité de femme.
C'est marrant. En fait, si tu veux, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycées.
Ouais,
ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement.
Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi.
Ouais.
Presque.
Je sais pas, je suis pas sûre.
Moi, je suis presque sûre. Bah, les idées, elles se rejoignent un peu. Tu vois le son Get Up, Stand Up?
Bah ouais, je vois.
Bah, je trouve qu'il est engagé.
Ouais, c'est vrai.
C'est pareil que Sartre. C'est un peu un philosophe, c'est un prophète, c'est la même chose. En tout cas, j'espère que tu voudras bien m'aider pour mes dissertes de philo, parce que t'as l'air...
Bah écoute, quand tu veux.
Autant vous dire qu'elles vont pas trop faire de philo en fait. Alors, on ne se contente pas de parler d'amour ici, mais on réfléchit aussi sur la confrontation sociale des deux jeunes femmes, sur les clivages culturels qui polluent les relations et qui finiront par parasiter leur histoire au point d'être davantage responsables de leur rupture, que l'infidélité. On connaît depuis le début de sa filmographie l'amour de Kechiche pour la représentation des minorités et son talent pour la peinture de la vie quotidienne. Il atteint à nouveau ici une perfection rare qui demeure constante tout au long du film. Avec une crudité proche du naturalisme, il capte des instants de vie par des cadrages sans cesse très serrés, plaçant souvent les bouches au centre des plans, donnant à la nourriture une place primordiale et symbolique. Les scènes s'étirent volontiers, les dialogues faisant croire à de l'improvisation, tant ils durent et se répètent, comme ils le feraient dans la vraie vie, et les comédiens les font vivre avec une intensité et une justesse assez sidérantes. Pas un mot, pas une intention ne sonne faux ici, ce qui relève de l'exploit dans un film de cette envergure et sur ce sujet. On frôle presque l'overdose de gros plans. On sent à quel point le réalisateur s'est réellement immiscé dans la personnalité de ses comédiens pour en soutirer des émotions palpables et réelles. Et le résultat est vraiment criant de vérité. La durée, 3 heures quand même, n'est d'ailleurs pas un problème du tout. Le film s'écoule sans que l'on s'en rende compte. Et Kechiche a même produit d'ailleurs une version longue. J'ai cru que c'était une blague, mais non, c'est vrai. Il a dit qu'il y aurait une version longue qui allait sortir. Ça, c'était que la version courte. Alors non, en fait, le principal souci réside pour moi, en fait, dans les scènes de sexe, dont on a beaucoup parlé, et justement, pas en des termes que j'ai trouvé adéquats et pertinents. On a dit que le sexe dans la vie d'Adèle, qui a quand même une importance capitale, puisqu'il s'agit de la révélation d'une sexualité dans ce film, était filmé de manière crue et frontale, ce qui, à mon sens, est totalement erroné, puisqu'il est au contraire mis en scène avec un espèce d'esthétisme qui s'apparente plutôt au porno. Alors, pour parler de façon concrète, on a un peu de mal à croire qu'une ado de 17 ans qui couche pour la première fois avec une fille ait pensé à se faire une épilation intégrale juste avant et qu'elle connaisse déjà par cœur tout le Kama Sutra lesbien. Cette fameuse scène qui constitue l'un des tournants du film est d'autant plus gênante qu'elle dure quand même plus de 10 minutes, ce qui ne sert pas à grand-chose dans un film classique. Et cette représentation du sexe sonne d'autant plus faux qu'elle détonne vraiment avec le réalisme du reste du film. Bon, il n'en demeure pas moins que la grande force de la vie d'Adèle est de parler d'un couple homosexuel en traitant cette histoire de façon classique, même si le procédé n'est pas nouveau. Il y avait notamment eu le film Weekend que j'avais chroniqué en 2012 et que j'avais beaucoup aimé et qui possédait cette même liberté, cette même simplicité dans la manière de représenter l'amour gay. C'est une palme d'or qui aura au moins le mérite de concilier succès critique et succès public, ce qui est assez peu fréquent quand même. Donc allez le voir, c'est un très bon film malgré de légers bémols. Je vous le conseille, c'est à voir au Diagonale et en fait dans tous les cinémas de Montpellier, également au Royal, au Gaumont, à voir partout.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie.
Sur Divergence FM.
Et on va maintenant enchaîner avec la contribution de Vincent à cette émission de Cinérama. C'est l'interview qu'Albert Dupontel nous avait donnée à l'occasion de la projection de son film « 9 mois ferme » que je vous ai chroniqué la semaine dernière. On écoute tout de suite Albert Dupontel au micro de Cinérama.
Vous n'allez pas rester perchemin toute votre vie, vous allez finir chef des besoins de la radio, vous voyez.
Ouais, tu pleures, mais t'auras pas bouffé, voilà. Là, hop.
Vous seriez surpris de voir que les inspirations qui lancent les films sont toujours des histoires tristes. Et c'est toujours des moments où moi, je suis plus touché par une histoire et je me dis, je vais la raconter. Je ne pense pas une seule seconde à des pseudo-gags qui viennent après, parce qu'on prend du recul avec sa propre histoire. Mais au début, moi, en l'occurrence, sur ce film-là, j'ai vu 10e chambre de Depardon. Et j'ai été très choqué, très ému quand j'ai vu ce documentaire, que j'ai vu à plusieurs reprises. J'ai voulu rencontrer la juge Bernard Requin, qui est sorte l'héroïne de ce documentaire, qui représente une sorte de juge extrêmement rigide et froide et dur et sévère et tout. Et j'ai rencontré une femme beaucoup plus fragile. Et j'avais entre-temps l'idée de faire cette rencontre improbable entre une juge et son jugé. Voilà. Et après, il y a tout un folklore que je raconte, mais qui arrive tardivement. Vous voyez, les premières versions de Bernier étaient très austères. Il n'y avait pas de canaries, il n'y avait pas de coups de pelle. C'était beaucoup plus froid.
Qu'est-ce que vous faites ?
Ce qui est embêtant dans les oiseaux, c'est les becs.
Et au bout d'un moment, on prend du recul avec son histoire, on se prend moins au sérieux, voilà, on prend moins au sérieux son drame, et on commence à s'amuser enfin. Et quand on commence à s'amuser avec son drame, c'est qu'on commence à... Le fruit devient un petit peu mûr, voilà. C'est comme ça que que j'ai voulu laborieusement vers un scénario.
Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, je passe entre 10 et 15 heures par jour au palais de justice. Je suis célibataire et sans enfant.
C'est une blague ?
Non, je suis une femme intelligente. Non, mais c'est pas possible.
Alors, on s'est vu avec Sandrine. Je lui ai bien dit que j'avais arrêté les filles, mais que je ne pensais pas à elle, etc. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez bien faire des essais ?
Non, c'est pas possible !
Ce qui pouvait paraître comme insolent par rapport à une actrice comme Sandrine, qui a une grande et belle carrière. Et Sandrine, avec beaucoup d'humilité, a dit oui.
C'est impossible !
Et alors, donc, cette scène, qui est celle que vous évoquez, c'est celle que j'ai fait faire aux essais, la scène du ventre, l'auto-jugement du ventre, qui était la scène fondatrice pour moi de l'histoire. Et cette scène-là, et je trouve qu'elle se met dans une colère noire et on garde une empathie avec elle qui est extraordinaire. Voilà. Elle dégage une humanité, une tendresse, une émotion qui n'appartiennent qu'à elle. Et ça, ça a été vraiment décisionnaire. Je suis parti complètement dans ce que je cherchais. Je cherchais une petite brune agressive et je ne pensais pas qu'une grande blonde pouvait marcher. Quoi. Vous voyez, c'était un vrai préjugé crétin de metteur en scène limité. Et Sandrine s'est chargée de le réduire à néant et j'arrive pas aujourd'hui à imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle que Sandrine, voilà.
Pour avoir pénétré par effraction dans une propriété privée sans accord préalable, le tribunal vous condamne à l'expulsion.
La situation est quand même assez épouvantable, hein. Ne pas savoir qu'on est enceinte, le découvrir et découvrir que le père est un taré qui aurait massacré un vieux, lui a mangé ses yeux. Voilà, la situation étant dramatique, elle a une réaction qui est appropriée à ce qu'elle vient d'apprendre. Quand elle hurle, c'est pas possible, il y a du canular qui lui raconte le fait divers et elle comprend que le fait divers, c'est, a priori, ça serait le père de l'enfant, donc... Son excès est assez cohérent.
Et t'as combien de mois ?
5.
Normalement, c'est combien ?
Bah 9.
Bah 9, ça va, je suis pas une fille, je connais pas tous les trucs. Excusez-moi, t'es un garçon.
J'ai une super liberté, c'est parce que j'ai eu peur de la perte que j'ai laissé tomber le projet en anglais. Donc je remercierai toujours ma culture de m'offrir cet espace de liberté. Mais il faut reconnaître que les films en anglais voyagent quand même beaucoup plus que les films en français. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quelque chose qui se passe. Et c'est clair que les influences que j'ai eues, au milieu des années 80, j'avais 20 ans, j'étais étudiant en médecine, et j'ai vu à l'époque les premiers films des frères Cohen, j'ai vu le grand Terry Gilliam, qui m'honore de sa considération. J'ai vu Brasil de Terry Gilliam, ça a été un événement. Je l'ai vu 3 fois dans la semaine. Dedans, ce film, il y avait tous mes rêves, tous mes cauchemars. Et ce cinéma-là, extraverti, stylistique, baroque, m'a beaucoup frappé. J'étais cinéphile, je suis devenu cinéphile grâce à ce cinéma. Et donc, assez logiquement, maintenant que je suis aux manettes, je cherche à faire... Et des fois, j'entends je me sens un peu décalé par rapport à ce qu'on appelle le cinéma français. Même si les films de Blier sont légendaires et m'ont beaucoup marqué aussi, j'ai plus d'affinité avec certains films que je vois en langue anglaise que des films de langue française. Vous voyez. Comme je vous disais, je ne pense pas faire des comédies, c'est des drames rigolos. Si ça amuse les gens, tant mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle une comédie à la française. Il y a eu des grandes choses qui ont été faites en ce temps-là, hein, si je peux... comment dire, avoir le box-office d'une comédie à la française, je serais ravi. Mais ça ne se fera pas parce que c'est pas l'intention première, voilà. Mais quand les gens se divertissent, je suis très content.
Il avait pas de meuleuse, et ben c'est pas grave, il le fait avec une scie mécanique, il a bien une scie mécanique, on a tous des scies chez soi. Et crac, il le fait à la main, voilà, il y va à fond, il est très déprimé. Attention, là, il a vu qui il a vu où il était rendu, et là il y va complètement, il se déteste, voilà, il y va, il se coupe.
Quand elle lève ce verre de champagne écœuré à la statue de la justice, qu'elle voit avec le nez rouge et le chapeau, elle est écœurée de ce que les gens en font. Effectivement, elle est bûcheuse, effectivement, c'est la plus compétente. D'ailleurs, c'est elle qui va comprendre, et pour cause, que le mec est innocent. Donc maintenant, elle se raconte sa vie, comme on se raconte tous nos vies. Vous voyez, c'est surtout un film sur le déni, en fait. Elle se raconte que parce que son père est parti, bon, c'est les choses qui arrivent, tous les hommes sont des lâches. Et elle se bétonne, en fait. La dangerosité d'une relation avec l'autre, parce que c'est vraiment dangereux, et ben elle se met hors de ça, parce qu'elle dit, moi, de toute façon, je suis une victime, donc je ne m'approche pas de la gente adverse. Et puis voilà, donc elle se ment. Et le seul qui se ment pas, c'est le pauvre Bob. Lui, il est tellement acculé depuis la naissance par ses difficultés qu'il est très sincère. Il est intuitif, donc c'est la rencontre entre cette femme que délibérément j'ai placée effectivement célibataire, idéaliste, rigoriste, etc., avec un type décalé et qui est pas franc du collier puisqu'il cambriole, mais qui n'est pas le monstre que la rumeur prétend. Voilà.
Il le fait à la main, ça craque, 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 il tout à la main, mais il est très déprimé, quoi. C'est la haine, il a la haine de lui, quoi. Il s'est vu vieux, tout, c'est fini, quoi. Il est fini, il sait qu'il est fini, il s'éclate à la scie. Ça, c'est quand il y a la vraie dépression, j'ai entendu parler, les gars, ils y vont à fond, quoi. C'est fini. Donc la scie, il y va complètement. Voilà, c'est tout.
C'est pas gagné avec les experts, hein, même très bête.
Voilà, c'était donc l'interview de Albert Dupontel, monté par Vincent. Pour 9 mois ferme, un film que je vous conseille, hein, qui est sorti et qui sort aujourd'hui et qui est visible au Gaumont. Et Gaumont Multiplex, il me semble pas qu'il le passe au Diago, à vérifier.
Non, il ne passe pas au Diago.
Ben voilà, donc il ne passe pas au Diago, ça y est, Dupontel a basculé vers le grand public, il n'est plus dans le domaine indépendant. Bref, 9 mois ferme, ça sort aujourd'hui et on poursuit avec C'est la fin, c'est Cinérama.
Cinérama. Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
7
Je t'ai préparé un week-end de malade. James Franco fait une méga fête.
Yes.
Apparemment, c'est un truc de barjo.
Alors, tu racontes quoi, Ryan?
Je reviens pas qu'il trouve encore moyen de se faire inviter.
Oh, touche pas à mon boule, biatch.
C'est bizarre, bon, mais ça passera.
Il est trop sexy.
Putain, c'est...
Le bureau du shérif demande aux habitants de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre.
C'est grave.
Des émeutes, des pillages.
Je crois que c'est l'apocalypse. Tout est là, dans le livre de la révélation.
Un truc dehors.
Balance-moi un couteau.
Reçu-moi.
On reste ici, on fortifie cette putain de baraque.
Emma Watson s'est pointée.
Je suis restée cachée dans un égout pendant des jours.
Essaie de dormir un peu.
Qu'est-ce que vous foutez là?
Je suis archi fan de Harry Potter. J'ai trop envie de lui poser plein de questions super passionnantes sur les tournages.
T'excite pas, Dumbledore. What you want, son? This is my game, this is my lane.
Get out of the way. What you want, hon? Tirez-vous de là!
Oh putain, non!
Un hélicoptère! On est sauvés!
Concept amusant sur le papier, en fait, c'est la fin. Un énième film d'ailleurs sur la fin du monde, puisqu'il y en a quand même eu beaucoup sur les dernières années, entre 2012, je ne sais plus là, World Invasion, enfin bon, il y a eu beaucoup de films comme ça. Bon, là, c'est un peu particulier. Hein. C'est la fin, tient plus, je dirais, de la grosse blague que d'un projet cinématographique abouti. Comme disait ma grand-mère, les meilleures blagues sont souvent les plus courtes. Sauf que là, ça dure quand même pas loin de 100 minutes. Et l'argument de base n'est pas plus idiot qu'un autre, même si ça sent un poil l'arnaque. Alors Seth Rogen et Jay Bruchel, je ne sais pas comment on prononce, tu ne connais pas cet acteur.
J'en ai absolument aucune idée.
Voilà, bon, c'est un acteur de comédie US en fait. Donc ils jouent dans leur propre rôle, ils se rendent à une fiesta chez James Franco, aussi dans son propre rôle, et deviennent donc les témoins de l'apocalypse. Donc toute la première partie est vraiment amusante et jouissive dans le genre film de potes, où chacun se plaît à déconstruire un peu son image. Quoi qu'on peut trouver ce principe un peu narcissique dans cette nouvelle génération d'acteurs apparaît forcément comme cool, décontracté, assez conforme à ce qu'elle représente pour les spectateurs. Donc on retrouve donc Jonas Hill, Paul Rudd, Michael Cera, il y a Emma Watson, Rihanna aussi, et puis Danny McBride pour les plus connus. La satire hollywoodienne n'est du coup pas très très pertinente, tant l'envers du décor apparaît que finalement factice et plutôt complaisant. Donc la génération montante découverte par Apatow, entre autres, Judd Apatow, puisque c'est un peu tous les comédiens que l'on retrouve, elle est presque au complet et les fans de la comédie US américaine seront aux anges tant le film est gavé de private jokes, de références et de détournements plutôt vraiment amusants. Mais il manque un souffle, une véritable envie de raconter une histoire derrière les pitreries de chacun. Parce que pour pallier un script quand même un peu maigre, les réalisateurs jouent à fond la carte de l'autodérision avec des dialogues bien trash et puis de l'outrance visuelle en n'hésitant à aucun moment de nous balancer du gore qui tâche et des effets numériques bien grossiers. Donc ne parvenant pas vraiment à garder un cap, une ligne directrice cohérente, c'est la fin, se vautre vraiment dans le grand n'importe quoi en fin de parcours entre pastiche de l'exorciste et un happy end qui se déroule dans une espèce de paradis toc qui croule sous les clichés. Enfin, ça vire vraiment au n'importe quoi. L'impression qu'ils ont dû même improviser en cours de route, tellement l'argument tient en fait à ce côté concept de film de potes, mais pas plus. Voilà, bon, mise en abîme un peu rigolote de toute une génération de comédiens, ce délire potage finit bon, par tourner en rond, en dépit de ses qualités réelles. Hein. La réflexion à peine esquivée sur le statut de star de chacun, leur ego et névrose, auraient pu aboutir à une œuvre plus intéressante. Il y a d'ailleurs un truc assez marrant, c'est que James Franco s'auto-flagelle un petit peu, il passe pour un gros égoïste, et lui, il finit par mourir réellement à la fin.
Il finit par mourir réellement.
Enfin, réellement, non, pas réellement, mais bon, comme c'est lui qui joue
c'est embêtant.
Comme c'est lui qui joue son propre rôle, on a l'impression qu'il meurt vraiment.
Comme dans les films, mais donc, tu voilà. Sais, en fait, Manu, les gens ne meurent pas vraiment dans les films. Hein. Non, c'est pour
oui, mais
de
là,
faux.
Ils interprètent leur propre rôle, alors moi, j'étais perdu.
Eh bien non, puisque tu vois, après il revient dans un autre film qui s'appelle As I Lay Dying.
Ah bon, mais il l'a peut-être tourné avant.
Je sais pas, je n'ai pas demandé. Pourtant, je l'avais au téléphone pas plus tard qu'hier, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'y penserai pour la prochaine fois. Donc, c'est la fin, Manu. À voir où ?
Oh, Gaumont Multiplex. Gaumont Multiplex.
Oui, uniquement, je ne pense pas que ça ira dans les salles à réessai. Je ne pense pas que ça soit le genre. Bien, et on continue avec toujours plus de James Franco, toujours dans Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
Alors, on avait quitté James Franco l'année dernière, portant des dents en or et des chemises hawaïennes improbables en plein triolisme aquatique avec des spring breakers chez Harmony Korine. On le retrouve cette année dans As I Lay Dying, comprenez, Tandis que j'agonise. Alors, le 9e long métrage déjà de cet acteur encore assez méconnu pour ses propres réalisations, mais qui s'est avéré dans l'ombre de ses rôles grand public de beau gosse conventionnel très prolifique, hein, puisqu'il est quand même écrivain, photographe, documentariste, scénariste et peintre, quand il ne pose pas pour des campagnes de parfums. C'est bizarre, mais les mecs comme ça habitent toujours à Los Angeles, mais jamais ici, quoi. Je sais pas où ils sont, où ils se cachent. Bref, passons. Présenté dans la sélection Un certain regard de Cannes 2013, As I Lay Dying est adapté du roman éponyme de William Faulkner. Et on comprend en effet dans les premières images que la forme y sera particulière. Une femme à l'agonie est allongée sur son lit de mort et par le face caméra, le plan étant séparé en un split screen qui reviendra ensuite durant tout le film de façon à mettre en parallèle et en opposition les réactions des différents personnages, tous membres de la même famille et dont la matriarche vient de mourir. Ils entament alors un périple en charrette, nous sommes au siècle dernier dans le Mississippi, pour aller l'enterrer dans une ville lointaine, bravant les éléments et leurs propres rancunes intestines. C'est un récit polyphonique qui va ainsi se mettre en place progressivement, chacun des personnages se découvrant peu à peu à travers des monologues en voix off. Malgré un engagement profond hein, que l'on sent de la part des comédiens, tous excellents et très crédibles, il faut quand même savoir que la dernière scène dans laquelle ils creusent la tombe de leur mère, ils l'ont vraiment fait, c'est-à-dire du début à la fin, ils ont vraiment tout creusé, ils ont vraiment tout filmé. Et malgré une réalisation brute mais artistique et un sujet prenant, As I Lay Dying s'avère être un film difficilement aimable. La mise en scène ne permet pas suffisamment d'entrer dans la psychologie des personnages et de les rendre attachants. La lenteur extrême de l'action nous détache du propos et l'ambiance pesante dessert souvent le film. Alors, il faut quand même avoir envie hein, de se retrouver dans une charrette pendant 2 heures en la compagnie d'un cadavre en décomposition sur lequel est allongé l'un des frères dont la jambe est arrachée, à côté de sa sœur qui veut se faire avorter par tous les moyens et qui cache sa grossesse, de son père aux dents pourries qui passe son temps à râler et du plus jeune, des 5 enfants, qui fait des rêves assez glauques où il éviscère des poissons avec un couteau. Voilà, autant vous dire que la soi-disant crudité de la vie d'Adèle à côté, c'est un film de Walt Disney. Hein, c'est pas parce qu'il y a aussi James Franco dans la charrette que ça fait passer tout le reste. En conclusion, eh bien, un film audacieux, pas dénué de beauté, mais quand même assez pénible et éprouvant, hein, qui vous fait un peu trop participer aux souffrances de ses protagonistes. Moi, personnellement, je préfère suivre James Franco sur son Instagram plutôt qu'à travers l'Amérique profonde.
Sur son quoi ?
Sur son profil Instagram. Il a un profil Instagram extrêmement intéressant. D'accord. Parce qu'il est redevenu en fait étudiant, il est en doctorat d'anglais. Et en fait, il poste beaucoup de poèmes sur son compte Instagram. Je te montrerai après.
C'est un nouveau Vincent Gallo, en fait, un peu.
Ouais, voilà, sans les fellations dans les films. Oui, mais bon. C'est à peu près ça. Enfin, voilà, si vous voulez quand même le voir, hein, moi, je dois quand même dire que je suis sortie avant la fin du film. J'ai pas tenu, ça dure quand même 2 heures. Et sincèrement, au bout d'une heure et demie, je n'en pouvais plus. Et j'étais pas la seule. Il y a pas mal de personnes qui sont parties. Enfin, on était plusieurs à quitter la salle. C'est assez pénible. Si vous voulez quand même le voir, eh bien, c'est au Diagonale. C'est en version originale.
Je conseille quand même la lecture du roman, qui est génial. Hein, et,
oui.
Et tout Faulkner, c'est génial. Voilà, c'est, mm-hmm. Je conseille.
Bon, donc avoir davantage le roman que le livre.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Et on finit cette émission avec l'agenda qui va être extrêmement succinct cette semaine. Demain, jeudi 17 octobre à 19h45, c'est la 7e édition du festival alimentaire avec un jeu de mots avec terre. Et vous aurez droit au documentaire Love Meat Tender. C'est également un jeu de mots avec meat à l'intérieur.
Et documentaire aussi.
Oui, oui. Non, mais oui, là, il y a des jeux de mots en pagaille. Hein. C'est incroyable. Love Me Tender, donc de Manu Coman, c'est évidemment sur le végétarisme et sur la production de viande sur Terre. C'est un tarif spécial de 5 €. Lundi 21 octobre à 19h45, c'est Barcelona, avant que le temps ne l'efface, du Miria Ross, un documentaire qui sera suivi d'un débat avec la réalisatrice donc, et puis toujours à l'espace expo du Diagonal jusqu'au 22 octobre. C'est l'exposition photographique Girard et Escu Oyola.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Et voilà, c'était Cinérama pour encore une nouvelle semaine sans Vincent, qui ne reviendra toujours d'ailleurs pas la semaine prochaine. Mais nous, par contre, on sera là. Et à suivre, eh bien, l'émission 24 notes secondes, qui sera consacrée à la musique de Vertigo, Manu.
Et plus particulièrement donc au compositeur, je pense, Bernard Herrmann, le compositeur fétiche d'Hitchcock, qui signa aussi des bandes, des musiques pour Brian De Palma.
Rien que des combinés.
À la semaine prochaine.
Rien des combinés de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.